Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, noble.
Journal vivant. Politique.
Construction. Obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, l'émission de théâtre en live, tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu. Aujourd'hui, je suis en présence de Thomaline à la cabine.
Bonjour tout le monde.
Et aujourd'hui, nous avons une carte blanche avec la compagnie des Chapé Shooters, avec Milena Mojica.
Oui, bonjour.
Luc Vernet.
Bonjour.
Mauricio Busca.
Bonjour.
Et Léonard Dadin.
Bonjour.
Bonjour à vous tous, nous sommes en nombre aujourd'hui et je vais donc vous demander de vous présenter chacun, de présenter la compagnie, de vous présenter vous en tant qu'artiste.
Alors si je commence, je vais commencer par présenter la compagnie.
Très bien.
Donc les Chapé Shooters, c'est une compagnie qu'on a créée en 2011. Donc moi je suis vraiment à l'origine de la compagnie. Avec quelques autres personnes, Boris Courteau qui n'est pas présent aujourd'hui, et puis Ludmila Kofi qui a été présente aussi dès le départ, qui n'est pas là aujourd'hui non plus puisqu'ils sont actuellement en train de se préparer pour jouer Chute le roi pourrait entendre, qui est la
où
première
ça,
pièce
ça, où ça
au théâtre Le Fou.
Allez, mangez vite, à 14h30 on peut vous voir.
À 14h30. Et si j'évoque ça, c'est parce qu'en fait la compagnie des Chapé Shooters, on l'a vraiment créée autour de ce spectacle-là, Chute le roi pourrait entendre, qui est un jeune public, mais qu'on a monté parce qu'il nous touchait aussi en tant qu'adultes. J'en parlerai peut-être après, je vais laisser les autres se présenter et présenter leur rôle dans la compagnie des Chapé Shooters.
Très bien, mais présente-toi un petit peu.
Alors
aussi.
Oui, donc moi, j'étais metteur en scène dans la compagnie au départ. Ensuite, en ce moment, actuellement, je joue. C'est plus rare, mais ça arrive. J'ai pas une formation de comédienne de type école, ni de metteur en scène. Mais en fait, ça a été une formation sur le tas dès mes 18 ans. On s'est lancé, on a plongé dans la marmite grâce au théâtre universitaire. Et puis derrière, ça a décollé parce que les rencontres se sont faites au fur et à mesure. Voilà.
Très bien.
On a patogé dans la gadoue et c'était assez rigolo.
Quand on patoge, qu'on arrive à surgir de belles statues en argile.
Voilà, exactement.
Très belle métaphore.
Voilà. Et donc je vais laisser Léonard Dadin se présenter à ma gauche. Alors Léonard Dadin, c'est un auteur
c'est un auteur
très mystérieux, très rare à la radio, je pense que
c'est un privilège.
Mais oui. Et qui est un auteur de la région qui adore parler en public. Et voilà, Léonard Dadin, un petit mot peut-être.
Tu viens de tout dire. Non, du coup voilà, je suis Léonard Dadin, je m'occupe je travaille avec cette compagnie, donc j'ai écrit des textes. Je me suis occupé de l'adaptation du spectacle jeunesse, Chute le roi pourrait entendre. Et du coup, la compagnie met en scène d'autres de mes textes plus personnels. Voilà.
Et il y a eu un coup de cœur entre la compagnie et toi, en fait.
Alors du coup, j'ai rencontré Milena qui m'a demandé si ça m'intéressait de travailler sur Chute.
Oui, donc à la base, juste pour voir, Chute, c'était donc un livre.
Voilà, c'est un album jeunesse de Didier Sustrac, illustré par Éric Puybarret, qui est vraiment un album jeunesse, un conte. Et donc, le travail d'adaptation théâtrale a été quand même assez poussé. On a dû, pour contextualiser l'histoire, rajouter des scènes ou vraiment tout mettre en dialogue et rechercher aussi un peu plus loin dans les personnages, puisque dans l'album jeunesse, ce sont des passages qui sont assez rapides. Et donc les personnages défilent et ont pas spécialement le temps d'être caractérisés. Donc voilà, il y a eu vraiment un gros travail d'adaptation.
Ah oui, à partir du texte, j'imagine, à partir de l'illustration, vu que c'est surtout un livre pour enfants avec beaucoup d'images et comment mettre ça sur scène avec des mots, avec des images aussi. Mais
ouais. Alors c'est vrai qu'on sait pas
rendre vivant la chose.
On s'est pas tellement inspiré. Enfin, Milena, la metteuse en scène, et les autres, parce qu'on travaille tous un peu dans tous les niveaux, on s'est pas tellement inspiré de l'esthétique de l'album. visuel réellement.
D'accord.
On a vraiment repris l'histoire et recréé l'univers autour de.
Vous avez fait votre propre gadou.
Exactement.
Tu veux rajouter quelque chose peut-être?
Oui, je voulais dire aussi que Léonard Dadin ne travaille pas qu'avec nous. Et qu'en fait, on est vraiment allé le chercher alors qu'il travaillait déjà avec d'autres compagnies depuis une dizaine d'années sur Lyon, notamment le monstrueux Théâtre BAM et Yann Ducruet. Je pense que c'est une étape importante, c'est bien de le mentionner.
Comment, mais vous êtes allé le chercher, est-ce que vous le connaissez?
Oui, on le connaissait. Moi, j'avais déjà lu certains de ses textes, je savais ce qu'il donnait. Je savais ce que ça donnait. J'avais déjà entendu des lectures, vu des vidéos de pièces qui avaient été montées. Et donc je lui ai demandé de faire cette adaptation. Il n'était pas forcément tout à fait enthousiaste au départ, il a vraiment fallu négocier. Mais bon, c'est un auteur, quoi.
Bah oui. C'est toujours, c'est pour une compagnie, avoir un auteur au sein de sa compagnie, c'est un vrai privilège.
C'est vrai que c'est une sacrée chance.
Et un poids parfois.
Non, c'est pas un poids, c'est pas vrai. Nous, on est vraiment très très heureux. Par contre, c'est vrai qu'il a fallu que tu comprennes aussi certaines nécessités de la scène, parce que Léonard Dadin, à la base, c'est pas un auteur de théâtre, c'est un auteur de petits contes. Il y a eu beaucoup de formats de petits contes avec des thématiques où tu étais entièrement libre. Là, c'était un format imposé pour du jeune public, ce qui est pas évident non plus. Une adaptation d'un album jeune.
Oui, c'était pas ton propre texte.
Voilà.
Encore plus compliqué.
Donc il y a eu beaucoup de dialogues, beaucoup de réécritures. Ça a parfois été houleux parce que j'arrivais en disant non, ça marche pas du tout sur la scène, il faut changer ça et ça. Mais c'était comédien, ils ont rien compris. Et beaucoup de dialogues, beaucoup de gadou et une belle sculpture à la fin.
Très bien.
Voilà.
Et on va peut-être continuer avec les autres personnes. Donc il y a toi, Luc.
Alors oui, bonjour. Donc Luc, moi je suis dans cette compagnie depuis pas très longtemps finalement, on se connaît pas mal de temps. On s'est croisés à diverses occasions sur des petits projets, par des réseaux qui se croisent, Et puis on travaillait depuis un certain temps aussi sur des ateliers théâtre, sur des cours, des stages, des choses comme ça. Et un jour, Milena m'a appelé en me disant « On a une carte blanche au fou ». Je lui dis « C'est super, mais c'est quoi ?» Elle me dit « C'est un truc génial et on a besoin de toi, on voudrait te proposer des trucs ». Elle me dit « Ah, d'accord ». Et donc là, elle m'a expliqué qu'il y avait un diptyque. Alors, diptyque, déjà un mot compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un diptyque? Comment on fait un diptyque sur scène? Moi, je voyais bien le triptyque avec un petit décor, un tableau. Donc, deux pièces de théâtre, plutôt des petites formes, puisqu'elles font de l'ordre de 40-50 minutes. Et Milena, là, m'a expliqué qu'elle avait vraiment envie de tisser des choses durant cette carte blanche, d'une pièce à l'autre, d'un spectacle à l'autre, de retrouver des ambiances, puisque ces textes se font écho les uns avec les autres, et que du coup, dans l'équipe, il y a des échos aussi, des résonances, des tissages qui se fassent, en prenant quelqu'un qui a la mise en scène sur une pièce, le mettre en tant que comédien dans une autre, celui qui est comédien peut prendre la mise en scène d'un troisième spectacle, et puis on a une sorte de boucle qui se fait, comme ça, une chaîne. Et tout ça fait quelque chose qui, finalement, c'est très dense, pour nous, en termes d'emploi du temps, mais c'est très dense aussi en termes de créativité, de rencontres, de résonance entre une pièce et l'autre. Ou des fois, un truc qu'on joue depuis trois jours, et puis un jour, une comédienne me dit :« Mais oui, je dis ça parce que ça fait correspondance, ça fait résonance avec ce qui est dit dans l'autre texte. » Ah mais oui, forcément, j'y avais pas pensé jusqu'à présent, mais.
Mais très bien. Et c'est intéressant ce que tu nous racontes justement sur le fonctionnement un peu spécial de la compagnie, parce que t'es comédien, donc c'est des rôles différents. C'est pas facile à switcher entre tout ça.
Et du coup, ça me permet de préciser une petite chose à propos de notre auteur, Léonard Dadin, qui manie très bien les crayons pour l'écriture, mais qui manie aussi bien les pinceaux, les ciseaux, la colle, et même parfois les vis, la perceuse et la colle, et les clous.
Et scénographe.
Et exactement.
Très bien.
Il est à l'origine d'un certain nombre de créations d'univers visuels de ces pièces. Voilà, où parfois on le fait un peu en collaboration, on a des idées communes, des demandes, on en discute, on parle, et puis on arrive à faire des choses comme ça. Donc il y a vraiment une espèce de porosité entre les différentes fonctions de tout le monde au sein de cette compagnie.
Ouais. Ça donne envie de vous voir travailler, et de voir surtout les créations. Et il nous manque une personne quand même.
présent. Alors bonjour.
Bonjour.
Je suis Maurizio. Je ne suis pas tout à fait un membre de la compagnie. J'ai été contacté.
Mais ça. Par,
pardon.
Ça,
avec grand plaisir. Écoutez, oui, j'ai été contacté par Léo et Milena, qui sont des amis de très chers amis de longue date, qui m'ont proposé de travailler sur un spectacle qui allait être monté pour la carte blanche au Théâtre du Fou. Le spectacle en question s'appelle Simius Sapiens Sapiens. Et j'ai été contacté en tant que musicien pour m'occuper de l'aspect sonore de cette création. Et on a voulu travailler avec, comment on peut dire, une situation technique la plus simple possible. Du coup, je ne me suis pas servi d'effets électroniques, d'enregistrement, looper, etc. Je ne joue que des instruments avant pendant certains moments de la pièce. Et les instruments avant en question, ce sont essentiellement la clarinette basse, un petit peu de clarinette et un tout petit peu d'un instrument que je ne dévoilerai pas puisqu'il n'est pas dévoilé sur scène.
D'accord. Voilà. Un instrument mystère.
Ah non, c'est vraiment un des instruments les on peut dire les moins charmants qu'on ait jamais créé.
La flûte à bec. Je suis désolée.
Moins charmant.
un violon. C'est pas un violon chinois.
Non, c'est moins charmant. C'est franchement le truc. Ah, pense un truc en toc, et ben c'est pire. Mais ce truc en toc, une fois qu'il est bien enrobé dans quelques couches de feutre, il donne des sons intéressants. Alors j'en profite.
Très bien. On peut lancer un jeu sinon à tous nos auditeurs. Si vous trouvez l'instrument mystère, vous allez remporter 2 places pour aller voir.
Allez, c'est parti.
Vous avez 10 minutes.
Voilà. Quand vous voulez.
Appelez-moi.
Et du coup, oui, je ne participe qu'en invité. J'espère qu'il y aura l'occasion de retravailler ensemble. Et pour l'instant.
Tu avais déjà travaillé sur des pièces de théâtre?
Non, jamais. Je fais de la musique depuis longtemps, mais c'est la première fois que je le fais sur une scène théâtrale et non pas musicale.
Et normalement, tu joues dans quel cadre?
Plusieurs projets. En ce moment, je joue avec 3 formations en Italie, enfin, basées en Italie. Un groupe, un quatuor prog noise qui s'appelle Io Mona Destanca, avec guitare, basse, batterie et saxophone. Un orchestre d'11 éléments avec laquelle on joue des choses, comment on peut dire, qui se situent un peu dans l'imaginaire musical de Nino Rota, le compositeur des musiques des films de Fellini, et le jazz grotesque des années 30, voilà. Et je joue, surtout en ce moment, beaucoup avec un groupe qui a été composé et dirigé par Manuel Volpe. Alors, c'est le nom entier du groupe, c'est Manuel Volpe et l'orchestre Rhabdomantique, et avec laquelle on vient de publier un album qui va être disponible dans les prochains jours, qui s'appelle Albor. Et je me permets de faire un petit
très
cube,
bien, mais il faut,
parce que voilà, c'est un fort beau truc, quoi.
J'imagine.
Voilà.
Écoutez, la prochaine fois, on pourra en mettre aux têtes de la gamelle.
Avec plaisir.
Bah oui. Et donc, du coup, quel a été justement ton rapport avec la pièce de théâtre? Enfin, comment tu t'es dit, je vais aller mettre de la musique sur la pièce de théâtre? C'est quoi ce rapport avec le théâtre que...
Alors, je ne me suis pas dit, je vais mettre de la musique dans la pièce de théâtre. On m'a dit, tu vas mettre de la musique sur la pièce de théâtre.
Imposé.
Et j'ai dit, d'accord. Alors, à partir de ce moment-là, il y a eu une série de problèmes, de problèmes techniques qui se sont manifestés. Problème technique parce que une pièce qui dure une petite heure risque de devenir un peu lourde avec la musique tout le temps. Alors il faut choisir quand est-ce qu'il faut mettre la musique, et après il faut aussi comprendre quel rapport la musique doit avoir avec la voix. On est en dialogue, c'est la voix qui inspire la musique qui inspire la voix, la musique suggère des effets qui décrivent ce que la voix fait, la musique fait des choses en opposition à ce que la voix dit, etc. Et après des problèmes d'ordre encore plus technique, c'est-à-dire quelle dynamique, quel volume tenir, avec quel moment utiliser un tel instrument qui joue sur la même fréquence de la voix et qui du coup peut créer peut déranger la compréhension du public de la voix de Milena qui sur scène joue sans microphone. Voilà. Du coup, il y a eu toute une série de réglages de ce type à faire pour comprendre comment on pouvait créer un équilibre entre ces deux voix, la voix de Milena et les voix de mes instruments.
Et tu es sur scène, du coup.
Et je suis sur scène, oui.
Ça, c'est un parti pris de... Parce que c'est pas souvent qu'on voit des, pareil, les musiciens sur scène.
Je suis sur scène, je tire des ficelles, alors je fais des trucs inouïs, quoi, ouais, pour un musicien.
Et tu te sens... Parfois... Et tu sur scène, tu es musicien, tu es un personnage.
Ah, je me sens plutôt un outil. Je me sens très très bien dans ce rôle d'outil. Je suis là, je fais ce que je dois faire.
C'est la stéréo.
Ouais, t'as besoin d'un objet qui déplace un truc, et ben je suis ton objet. T'as besoin d'un objet qui te place des notes, je suis ton objet.
Ouais. Très bien.
Sans descendre dans une démarche maso, voilà. Mais voilà, j'aime bien la fonction impersonnelle que j'ai sur scène. Peut-être quelqu'un me trouve une personnalité sur scène.
Ouais, mais c'est un parti pris, justement d'être un personnage.
J'essaie de m'en débarrasser.
Alors le rôle d'objet, c'était pas forcément un parti pris. Voilà, c'est peut-être quelque chose de ressenti ou de. Mais c'est très bien, pourquoi pas. Hein. Mais par contre, le fait que Maurizio soit sur scène.
Tu es le metteur en scène.
Et voilà, je suis le metteur en scène de ce spectacle. Après, c'est un travail vraiment collectif et c'est. Il y a eu beaucoup de discussions, de négociations, de comment. Voilà, Maurizio exposait certains de ses problèmes ou de ses questionnements par rapport à qu'est-ce que je fais là, quoi je sers, pourquoi je joue, pourquoi je joue pas. Milena disait mais qu'est-ce que ça apporte la musique ou à ce moment-là pourquoi il y a plus de musique. Enfin, on a beaucoup cherché, beaucoup essayé, jusqu'à trouver quelque chose qui nous semble à peu près équilibré. Mais le fait que Maurizio soit effectivement sur scène et pas que dans un rôle, cantonné dans un rôle de musicien, c'était vraiment un choix qu'on avait envie de mener, d'assumer, d'exploiter au maximum. Et effectivement, ça nous sert beaucoup que Maurizio soit là pour certaines petites manipulations de machinerie qui sont à vue, puisqu'elles sont utiles et elles racontent aussi une partie de l'histoire. Donc c'est pas de la machinerie cachée de théâtre avec des cintres et des coulisses.
Division.
Là c'est vraiment de la manipulation sur scène qui ressemble un peu à de la machinerie de théâtre, mais qui sont aussi de la manipulation d'objets, de la mise en volume de certains petits effets visuels qui accompagnent le texte, qui sont parfois accompagnés ou soutenus par la musique. Et là le rôle de Maurizio en tant que personnage secondaire qui raconte cette histoire a toute son importance. C'est-à-dire qu'il est là autant pour accompagner le récit, poser des décors sonores, poser des ambiances sonores, comme tu le disais très bien, raconter l'histoire, accompagner, précéder le texte, déclencher certaines séquences, ou alors être en réaction à ce que peut dire le texte, ce que dit Milena. Et puis d'autres fois, Maurizio, il est là en tant que... ils sont deux personnes sur scène à raconter cette histoire. Et à certains moments, on a besoin que le deuxième personnage fasse d'autres choses, purement des déplacements, des manipulations, des regards, des intentions. Il y a beaucoup de regards et d'appui visuel l'un avec l'autre, tant du musicien sur la comédienne que la comédienne sur le musicien, des relances de l'un sur l'autre. Voilà.
Et puis, vu que la musique est presque entièrement improvisée, on sait qu'il y a des moments où il y aura un certain instrument qui fera des choses d'un certain type, mais alors ces choses-là, elles sont improvisées à chaque fois. Il y a peut-être quelques phrases qui reviennent, quelques passages que je réutilise régulièrement, mais la plupart des choses sont improvisées et je les improvise en essayant de suivre le plus possible le jeu de Milena.
Et de même,
ses poses, etc. Et elle aussi, elle suit le rythme que j'impose à certaines séquences.
Pour moi, c'est très important que tu sois là, en fait, pour pouvoir être en réaction à ce que tu fais. Je me sens autant en réaction à ce que tu fais que toi, tu me suis. Mmh. Et c'est très important pour que le texte reste vivant chaque soir. Parce que si la musique était enregistrée, les rythmes seraient toujours les mêmes pour moi. Il n'y aurait pas de possibilité de m'adapter à ce que je sens du public, à ce que je sens de mon énergie ce soir-là, à ce que je sens de Maurizio. Et du coup, il y aurait quelque chose de moins vivant. Pour moi, c'est vraiment un très très bel appui de jeu d'avoir Maurizio en scène. Autant comme appui de regard, comme complicité, que comme support musical qui crée vraiment l'histoire. Il y a vraiment des moments où j'écoute la musique autant que le spectateur l'écoute, où ça provoque en moi quelque chose et où ma manière de dire le texte exprime ce que j'ai ressenti de la musique. Donc il y a une sorte de manière de faire le voyage avec le spectateur grâce à cette musique en direct.
Ouais, c'est très intéressant, c'est un schéma entre de la semi-impro où il y a le texte qui est là. Il y a quand même toujours de l'improvisation du comédien, même si il sait comment il doit être dirigé, il doit jouer. Mais avec la musique qui est vraiment en impro, vous êtes tous les deux des aspirateurs à émotions publiques.
qui vont ressortir quelque chose et vous auto-alimenter. Enfin, c'est, ça donne trop envie d'aller voir.
Ben, nous, oui, c'est ça. Ça nous permet de refaire le voyage chaque soir.
Voilà. Alors, si ça vous a donné envie de voir, on peut donner quelques repères, quelques coordonnées spatio-temporelles.
Peut-être rappeler le titre du spectacle de la pièce déjà, qui s'appelle Simius Sapiens Sapiens, et puis expliquer peut-être en deux, trois mots de quoi il s'agit. Je peux faire ça sous l'œil vigilant de l'auteur. Qui ne manquera pas de me reprendre. Donc c'est une histoire, ça parle d'une communauté d'êtres vivants qui habitent dans un milieu vivant également. Donc en l'occurrence, ce sont des singes qui habitent dans un arbre. C'est une histoire simiesque. Et ces singes habitent dans le haut de cet arbre, parce que le haut, c'est quand même beaucoup plus agréable, on s'y sent bien. Et comme toute communauté d'êtres vivants qui cohabitent, plus la communauté croît, plus il y a des codes, des règles qui se mettent en place, des équilibres, des lois, des influences de certains êtres de cette communauté sur d'autres êtres de cette communauté, jusqu'au jour où on a besoin, l'envergure et l'ampleur de la population fait qu'il faut aller voir un petit peu plus loin. Donc on va voir ailleurs ce qui s'y passe. Donc il y a des voyages. On va voir plus bas, on explore. Et puis on découvre que ailleurs il y a aussi des belles choses. Et que on peut arriver dans des lieux très florissants et très, très productifs. Et que ça peut être bien de peut-être utiliser beaucoup ce qui se passe ailleurs pour le ramener chez nous.
Ça me rappelle une histoire, mais j'arrive pas à...
Voilà. Donc, et puis tout ça va très, voilà, c'est une population qui finalement, prospère et se sent très heureuse jusqu'au jour où, bah, finalement on finit par s'ennuyer un petit peu. Donc, voir ce qu'on peut inventer d'autre pour, et puis bon, bah, ça termine finalement comme ça doit terminer. Mais bon, ça, pour le savoir, faut venir voir le spectacle.
Au théâtre Le Fou. Jusqu'à dimanche, à 18h45 à Volo, le premier volet du diptyque, une petite soupe est servie entre les deux pièces. Mmh. Et à 20h, Simius Sapiens Sapiens.
Voilà, merci. Et bah maintenant, nous allons écouter, pour rester dans la même pièce, écouter peut-être une musique. Mmh.
Alors on va vous proposer un petit montage, donc pendant qu'ils se mettent en place, un petit montage. Parce que c'était difficile.
Tu peux nous expliquer ce qu'on va écouter.
Donc c'est difficile d'extraire un morceau précis parce que pris comme ça, ça aurait pas eu beaucoup de sens. Donc on a pris un morceau de texte et un accompagnement musical qui sont pas forcément ce qui se passe dans le spectacle. Ça va être un petit peu improvisé, parce qu'on a décidé ça il y a à peu près 40 minutes et qu'on n'a pas du tout le temps de répéter. Je pense que ça transmettra bien l'esprit, l'univers musical, l'univers sonore et puis un peu le style de texte et l'esprit de l'histoire. Ah, si tout le monde est prêt, on peut commencer.
Et il y eut 4,141,248 singes. Et il y en eut 8,282,496. Cette longue période d'opulence laissa aux singes du haut de l'arbre énormément de temps libre. Et avec lui apparut cette drôle de chose qu'est l'ennui. L'ennui au travers duquel ressurgit le besoin de se raconter des histoires. Mais la plupart des histoires sans usage de mousse sont des histoires sérieuses, monsieur. Des histoires scientifiques. Des singes chercheurs découvrirent et inventèrent des tas de choses. Beaucoup de choses pour faire du mal, quelques-unes pour faire du bien. D'autres dont on n'était pas encore trop sûr. Ils apprirent à comprendre la manière dont fonctionnait l'arbre, une partie du ciel et l'étincelle qu'ils avaient au fond des yeux. C'est à cette époque aussi qu'on inventa la fermentation du fruit, et la philosophie et la poésie et puis tout un tas de jolies choses brillantes pour se divertir et passer le temps. Tant et tant de singes accumulèrent tant et tant de fleurs de toutes les couleurs qu'ils ne pouvaient plus tout garder chez eux. Des singes gardeurs furent alors chargés de les conserver dans un lieu sûr et sec, les garderies florales. Tout le monde jugea cela bien et chacun alla déposer ses fleurs à la garderie florale. Sauf les petits cueilleurs, bien sûr, qui n'en avaient pas assez pour cela. Et il y eut 16 564 992 singes. Et il y en eut 33 129 984. Voilà, qui a trouvé le nom de l'instrument mystère? Je ne sais pas si on l'a bien entendu.
De toute façon, ils n'ont pas pu voir, il était caché.
Bah merci. Merci pour ce moment. Dans le local, dans le studio, ça fait des petites sensations.
Voilà pour Simus Sapiens Sapiens. Après, on peut peut-être dire un mot aussi du premier volet qui s'appelle A Volo, qui est une pièce dans un tout autre registre, là, pour le coup.
Peut-être. Est-ce que tu peux nous épeler comment ça s'écrit? Parce que A Volo.
Alors A Volo, donc tiens, peut-être on va parler. Tiens, c'est l'auteur qui peut-être qui va nous expliquer ça. Tu peux en parler.
Alors pour une fois que je peux. Non, je profite du privilège de me servir de ma voix et non pas seulement de mon souffle. Alors A Volo, ça s'épelle, on dit comment en français?
Ça s'épelle,
très bien. Ça s'épelle A avec un accent grave, espace vo v o e u v e v a
bon
ah vaut comme ça, ok, v e a u hein,
comme le petit
l'animal
de la vache, ouais.
Mmh. Espace et l'apostrophe e a u. Alors toutes les pièces de l'auteur qui a écrit A Volo, qui n'est pas Léonard Dadin mais qui est Damos Simonovski.
Mais c'est qui?
Et Samos dit
un obscur auteur russe mort.
C'est un auteur dissociable, associable. Un auteur associable qui se prend au petit plaisir d'écrire des textes qui ne portent le titre que d'A Volo.
Mais écrit à chaque fois différemment. Donc il y a eu A Volo, comme en italien. Encore. Au vol. Non, c'est
la prochaine.
Je croyais qu'il était mort.
On retrouve de ses manuscrits parfois.
Il y a eu A Volo comme A Volo, les choses qui vont A Volo.
A Volo, ouais.
Et puis, je sais pas, peut-être d'autres manuscrits seront découverts.
Ave Olo.
Ave Olo.
Ave, ah oui! Joli. En pleine création. Et donc, de quoi parle A Volo?
Alors, de quoi ça parle? Donc, A Volo. En fait, je vais parler du coup du diptyque Les carottes sont cuites et peut-être de son origine, ce qui va nous permettre de comprendre plus de choses. C'est une commande qui a été faite par une AMAP du Maine-et-Loire à la compagnie des Chapchuteurs.
Une AMAP, tu peux...
Oui, je peux préciser ce que c'est. Si ça n'a pas changé, le sigle signifie Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Je pense que c'est toujours ça.
Oui.
Et donc une AMAP, c'est une association qui fait le lien entre des agriculteurs, en général bio ou en voie de conversion, en tout cas avec une idée d'agriculture locale.
donc le lien entre ces agriculteurs et directement les consommateurs, ce qui évite d'avoir tous les frais des intermédiaires et puis aussi de pouvoir discuter avec les agriculteurs, parfois d'organiser aussi des sessions d'aide pour on va tous aller ramasser les courges dans le champ, voilà, on se fait une bonne après-midi, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment ça, c'est le milieu associatif dans son aspect militant aussi, une AMAP. Voilà. Et donc cette AMAP organisait un festival sur les énergies alternatives. C'était le thème du festival cette année-là. Donc avec des conférences, mais aussi des concerts, des petits ateliers, voilà. Et ils nous ont passé commande de petites pièces. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, donc il fallait vraiment que ça soit des pièces simples à transporter et pas trop longues. Et donc on a retrouvé ce manuscrit de Damos Simonovski qui correspondait très bien puisqu'il s'agit d'une pièce très courte avec deux comédiens, une demi-heure. Et qui, en fait, c'est un huis clos, mais vraiment un huis clos, c'est-à-dire que les deux personnages sont enfermés, ils ne peuvent pas sortir, ils savent pas pourquoi ils sont là, et ils découvrent que l'un d'eux est agriculteur bio, ils se présentent l'un à l'autre, et l'un est agriculteur bio, et l'autre est une scientifique de type, dans une entreprise de type Monsanto. Ce mot-là n'est pas prononcé, mais c'est le modèle, voilà. Et donc, ils découvrent qui ils sont, les affinités qu'ils ont ou pas. Et il va falloir qu'ils survivent ensemble avec ce qu'ils ont dans cette pièce. Il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a des graines, il y a une armoire avec toutes sortes de choses. Et ils vont évidemment avoir des stratégies de survie très différentes, des visions du monde très différentes, une insupportabilité l'un et l'autre, et voilà. Et donc c'est une petite pièce plutôt comique qui joue en fait sur tous les clichés qu'on a, qu'on peut avoir spontanément si je dis agriculteur bio, si je dis scientifique de Monsanto, quels sont les clichés qui apparaissent? Et c'est vraiment un jeu là-dessus, en fait. Il s'agit pas spécialement de porter un message, à ce niveau-là, c'est vraiment plutôt se détendre avec des choses qui sont parfois pesantes dans la vie, dans la vie de tous les jours, des choses qui nous inquiètent énormément. Et là, se permettre d'en rire, tout simplement. Voilà. Donc, petite pièce. Et avec ensuite ce deuxième volet,
avec la soupe.
Avec la soupe. Alors la soupe, du coup, en fait, oui, allez, un petit mot sur la soupe, ça a son importance.
Bah oui.
Ça c'est spécialement pour le fou. On a décidé d'offrir la soupe au public puisqu'il y a ce temps entre les deux spectacles et que c'est aussi un temps pour discuter et autant le faire autour de quelque chose de chaud. Et donc on a eu l'idée de enfin c'est pas très original, ça se fait beaucoup, mais on a demandé aux primeurs du quartier de nous donner leur reste en fait de légumes, ce qu'ils n'avaient pas vendu.
Okay.
Et aussi dans les boulangeries aux alentours. Voilà. Donc c'est toujours dans cette idée d'écologie en fait, de récupération. Et donc on fait une soupe avec les légumes qu'on a récupérés, avec le pain qu'on a récupéré. Et ça permet aussi de parler de la pièce aux commerçants, à des gens qu'on n'aurait pas, peut-être qu'on serait peut-être pas allé rencontrer autrement.
Et une implication locale du théâtre dans le quartier, ce qui voilà. est pas souvent le cas aussi.
Et puis du coup, on a fait venir des gens qui nous avaient donné des choses, ils sont venus ensuite voir la pièce. Voilà, ça crée du mouvement. Ouais. Voilà. Cette idée marche, nous plaît bien et effectivement fonctionne bien. Et puis on a sollicité en fait un service civique, Sarah Faure, qui est arrivée début février, très motivée. Et un service civique, c'est ni un stage, ni un emploi, c'est vraiment fait pour développer des actions citoyennes, il y a un aspect d'engagement militant au service de la société. Et donc on se dit que ce temps de médiation entre les deux spectacles, ça correspondait bien à un service civique, Sarah était très motivée pour le faire, donc là en ce moment c'est ça, puis ensuite elle aura d'autres missions au sein de la compagnie. Voilà pour la petite histoire de la soupe. Et ensuite, on enchaîne sur Simus Sapiens Sapiens, et là, vraiment, dans un tout autre registre, mais on aime bien cette idée de contraste, de partir sur quelque chose de très léger, et puis ensuite, on reparle finalement des mêmes thèmes, mais sous une forme qui n'est pas pesante, hein, c'est pas l'idée, il y a toujours une forme de distance et d'humour, mais on n'est pas dans le burlesque, quoi. C'est un conte à une seule voix, très posé, et on part en voyage. Voilà, pour ce petit diptyque.
Les carottes sont cuites, donc.
Les carottes sont cuites.
Rappelle-moi les horaires.
Au fou, donc Avolo à 18h45, Simius à 20h. Avec le même billet, c'est possible d'aller voir les deux pièces, en fait. Donc l'idéal, c'est de faire ça, mais c'est possible aussi de les voir séparément.
Très bien. Et donc on a, depuis le début, on parle du fou, de cette carte blanche. Peut-être vous pouvez nous expliquer en quoi cela a consisté, qu'est-ce que vous avez présenté, comment ça s'est fait.
Oh, oui. Alors, est-ce que je garde la parole sur le fou? Tu veux peut-être parler?
Oui, 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 mais tu connais bien le, comment la carte blanche s'est mise en place.
Alors, oui,
juste donc, rappelle-nous l'adresse du fou pour les personnes qui ne connaissent pas.
C'est rue Fernand Rey.
C'est pas loin d'ici.
C'est juste à côté. Alors,
ça se trouve deux rues Fernand Rey. C'est juste à côté des locaux de Radio Canus.
De la place Satonnet.
Pas très loin de la place Satonnet, dans une petite rue derrière, un endroit très sympathique. À la fois un petit peu protégé, un peu intime, et en plus en même temps très accessible. C'est un très joli petit théâtre, très accueillant, avec une pièce où on entre, où on se sent très bien, où on peut s'asseoir, discuter, regarder une petite expo sur les murs. La compagnie s'est complètement appropriée le hall, enfin la pièce d'entrée de ce théâtre, avec des éléments de scénographie des différents spectacles qu'on peut retrouver, et puis des décors, des dessins, des petites créations, des images, des illustrations qui correspondent à chacun des quatre spectacles qui ont eu lieu dans ce théâtre pendant les trois semaines de carte blanche.
Voilà. Et oui, parce qu'il n'y a pas eu que les carottes, on pourra dire un mot.
Oui, des autres.
Ouais. Et donc, en fait, le fou, on les a rencontrés en janvier, pas de cette année, en janvier 2015. Et ils nous ont proposé une carte blanche. C'est un dispositif qui propose tous les ans, au moins une fois, voire deux, à une compagnie de la région. Donc il y a vraiment un travail de découverte des compagnies de la région, ils font un très très beau travail. Ils ont vu un extrait de Chute le roi pourrait entendre, ils ont vu qu'on avait d'autres pièces, qu'on existe depuis un certain nombre d'années, et ils nous ont fait confiance, ils nous ont dit on vous donne une carte blanche, c'est-à-dire que vous pouvez jouer ce que vous voulez. Il y a deux règles, la première c'est qu'il y ait une création les deux premières semaines, donc ça a été Révolution dont on vous parlera,
oui.
Et que le jeune public se joue sur une semaine de vacances, cette carte blanche se fait à cheval avec les vacances, quoi. Et après on pouvait jouer ce qu'on voulait, et donc on a décidé de remonter ces deux pièces du diptyque qui avaient été jouées mais dans une forme beaucoup plus légère la première fois au Festival de la MAP, et donc là c'était l'occasion de vraiment les recréer, voilà, et puis de les faire connaître ici puisqu'ils avaient jamais été joués dans la région. Voilà pour le fou, qui est dirigé par une équipe où le travail est assez collectif aussi. Ils sont six. Renaud Rocher, qui est à l'origine du lieu tel qu'il est aujourd'hui. Une autre personne qui est partie, qui a été remplacée par Pascaline Chambon et Alizé Lombardo. Et puis d'autres personnes qui se sont ajoutées. Ils sont aujourd'hui une équipe de six. Voilà.
Très bien.
Et ils font vraiment... Nous, on est ravis d'être là-bas, non seulement parce que le lieu est magnifique, qu'on peut jouer à Lyon pendant trois semaines et qu'on a cette carte blanche qui a une chance incroyable, mais aussi parce que, en fait, ils sont vraiment en dialogue avec nous, ils ont un intérêt réel pour ce qu'on fait, ils nous font des retours à chaque fois, qu'ils sont très constructifs, et on sent vraiment qu'ils ont cette volonté de découvrir ce qui se fait autour de chez eux, quoi. Ils vont voir énormément de choses, voilà.
C'est vraiment un lieu de diffusion
qui
prône la création.
Avec un fort attachement au texte aussi, je pense que ça les a beaucoup intéressés qu'il y a un auteur attaché à la compagnie.
Un ou deux auteurs, enfin, des fantômes, c'est des
auteurs. Toutes sortes d'auteurs.
Et voilà. Tu nous as parlé du coup de la pièce Révolution.
Oui.
Je l'ai déjà bien dit.
Alors, si l'auteur nous fait cet honneur, j'aimerais lui laisser la parole.
Alors, pareil, je vais te demander de dépêler le... parce qu'il y a des petits jeux de mots, alors la radio, ça se sent pas, même si...
C'est R-E-V-O-loup, comme l'animal.
Avec un S.
Avec un S. Tiret-sion. T-I-O-N. Donc, Révolution, c'est un texte qui commence à dater, qui a été écrit en 2008 pour clore une série de lectures qui avait eu lieu à la Boulangerie du Prado, dans le 7e arrondissement. Série de lectures initiée par Yann Ducruet, le metteur en scène de l'autre compagnie avec qui je travaille régulièrement. Et donc on a lu, durant tout un an, tous les derniers vendredis du mois, toute une série de contes pour adultes que j'avais écrits. Et sur la dernière date, il n'y avait plus de contes. Une rumeur courait comme quoi la date ne nous avait pas été réservée, et une semaine avant, finalement, la date nous avait été réservée. Du coup, j'avais écrit ce texte pour l'occasion, que j'avais donné moi en lecture, puisque j'avais pas eu le temps de le montrer à quiconque.
Un texte que tu as donc écrit de manière très très rapide.
Voilà, un peu dans l'urgence, sur des thématiques qui me sont pas familières, un peu politiques.
Ah.
Et voilà, c'est un texte qui date un peu, mais qui est encore d'actualité, et c'est bien dommage.
Malheureusement, oui, ce sont des textes comme ça. Peut-être que tu veux nous en lire un extrait?
Ouais. Oui. Alors du coup, donc c'est le premier spectacle qui a eu lieu au Fou, une mise en scène de Ludmila Kofi, membre de la compagnie, comédienne sur notre spectacle, moment, voilà, qui est en train de se préparer pour 14h30, voilà, et jouée par Aurélia Métral. Alors, je vais vous en lire un passage. Un jour, précisément à l'époque où le mage décida de s'isoler, les loups qui louvoyaient derrière les chiens dévorèrent ces derniers et revêtirent leur peau dans le but de se faire eux aussi acclamer des moutons. Cela fonctionna. La première année, ils dressèrent des barrières plus hautes, plus denses, plus proches. Les bergers rouspétèrent. La deuxième année, ils bouffèrent les bergers. Les moutons ne firent que bêler. Un mouton peut-il mordre la main de son nouveau berger quand il a de si grandes dents? La troisième année, gavage d'ovins avant même le sevrage, suce aux moutons noirs, rouges, aux galeuses ou râleuses brebis. Les moutons bêlent, on abat ceux qui rebellent. Quatrième année, nous y sommes, et il est trop tard. On ne peut plus sortir sans croiser une meute de loups et risquer la dévoration à chaque coin de rue. L'angoisse est telle que même les brebis les plus chétives ne sortent pas sans crainte. Et une petite fille, parce que la lumière dessine ses traits, est poursuivie par une bande de loups aux faces d'ombre jusqu'au fond des bois sacrés. Plus rien, dès lors, ne pourra jamais plus être sacré.
Merci. Oui, ça fait froid dans le dos, malheureusement. C'est vrai que c'est encore d'actualité. Ouais.
Et c'est un texte que donc Ludmila a découvert, qui l'a beaucoup touché, et elle a vraiment voulu le donner
le mettre en scène.
Dans un dispositif qui est très original pour le coup, et qui, comme tu disais, ça fait un peu froid dans le dos. Effectivement, ce texte du coup prend beaucoup de distance, et c'est un spectacle qui est très chaleureux finalement. Il y a vraiment une sorte de communauté où on est dans il y a beaucoup d'intimité entre le comédien Aurélien Métral qui dit le texte et le public qui est présent. Et voilà, c'est un beau moment où les gens ressortent très, on n'a pas de sueur froide, on ressort pas désespéré, on n'a pas envie d'aller se pendre après. Au contraire, c'est un beau moment chaleureux et vivant et dynamique.
D'accord. En fait, tous nos spectacles ont ces thématiques de résistance, d'engagement, de solidarité, d'oppression, beaucoup de jeux autour du langage aussi. Mais c'est rarement porteur d'un message définitif. Parfois quand même, il y a des choses qu'on
entend. C'est pas moralisateur non plus.
Non. Et en fait, je crois qu'on est attentif au public et qu'on a beaucoup de tendresse pour notre public. On a envie de partager les choses et pas spécialement d'en mettre plein la gueule. Non, je sais pas. Moi, on s'est pas dit ça à l'origine. On s'est pas donné de parti pris, mais là, si je regarde dans le passé, voilà, c'est ce qui se passe. Et quand on fait des présentations de saison, on utilise un texte et qui présente la compagnie et qui dit, et je ne l'ai pas ici, donc je vais essayer de me rappeler, qui dit de résistance feutrée en subversion tendre, les chapeaux-chuteurs.
On n'a pas dit d'où ça vient.
Mais oui, d'où vient ce mot, les chapeaux-chuteurs? Alors, ceux qui ont la bonne réponse, là, vraiment, on peut leur donner une invite au fou, parce que ça serait chapeau.
J'avais 2 minutes.
C'est un mot qui existe vraiment. Enfin, en tout cas, le verbe chapeau-chuter existe vraiment. Et à l'époque où on montait Chute le roi pourrait entendre, on montait la compagnie en parallèle et on cherchait un nom de compagnie qui soit pas un jeu de mots, parce qu'il y a trop de jeux de mots, qui soit quand même en référence avec une identité et avec ce rapport au langage et voilà, cette affection pour les mots. Et puis avec ce son che qui est très présent dans Chute le roi pourrait entendre, il faudra que je vous raconte un peu
ce que c'est que cette pièce.
Et donc on cherchait avec le son ch, et on a demandé à notre auteur, Léonard Dadin, qui a trouvé dans le dictionnaire des mots rares et précieux, vite couré à la bibliothèque, le verbe chapeau-chuter, qui existe vraiment, qui est à la fois un terme ancien, mais aussi un terme qui n'a jamais été beaucoup utilisé en fait, qui est vraiment un mot rare, qui a toujours été rare.
Donc si vous voulez briller en société, chapeau-chuter.
Ah, j'en ai trouvé une occurrence. J'en ai pas trouvé d'autres, dans La Horde du Contrevent, pour ceux qui connaissent ce très beau bouquin, ceux qui l'ont pas lu, vraiment, enfin c'est un bouquin très 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 émouvant, un gros pavé, dans le style de la science-fiction, mais une science-fiction très poétique. Léonard Dadin, est-ce que tu veux nous raconter du coup ce verbe chapeau-chuter, ce que ça signifie?
Alors, oui, la définition, oui.
Ouais, donc le verbe chapeau-chuter signifie faire de petits bruits, murmurer.
Voilà. Et Ludmilla, donc la comédienne qui n'est pas là aujourd'hui, on a une autre version, elle ce que se l'est un peu inventée, je crois, elle dit « susurrer, murmurer à l'oreille ».
Oh, c'est joli, mon dit.
Voilà. Et puis, est-ce que j'ai une minute pour...
Mais bien sûr, mais tu as plus qu'une minute, oui.
Ouais.
Oui, il y a le temps. Oui, il y a le temps.
Il y a le temps, oui. Super. Et donc, Chute, Laura pourrait t'entendre. C'est un album jeunesse que moi, j'avais découvert en 2009, qui m'avait beaucoup touchée. Après, c'est vrai que je suis sensible aux albums jeunesse. Mais malgré tout, je pense que c'est une histoire qui ne parle pas du tout qu'aux enfants. C'est l'histoire d'un roi qui chouinte. Il part comme chat. Il peut pas parler autrement, c'est pas de sa faute, voilà. Et sans doute qu'il est très malheureux. Mais du coup, chat l'a rendu un peu oppressif. Il a édicté des lois qui disent que tout le monde doit parler comme lui, et si tu parles pas comme lui, eh ben tu te fais couper la langue. Voilà. Donc il a interdit des mots, il a remplacé d'autres mots par d'autres, il a changé le nom des animaux, des chats-animaux, pardon. Le loup est devenu le chien-loup, et en même temps qu'il a perdu son nom, il a aussi perdu sa férocité. Donc il y a une sorte de perte d'identité aussi. Et il y a un petit garçon qui s'appelle Zouri. En fait, sa maman zozote, et donc elle dit, il est tout gris et tout petit, il est comme une petite souris, donc elle l'appelle Souris, mais elle dit Zouri, parce qu'elle zozote. Et Zouri est très malheureux, parce que sa maman ne peut plus lui chanter de chansons, lui raconter d'histoires, elle a plus le droit de parler à cause du roi. Et donc, il est tellement malheureux qu'il décide d'aller combattre le roi, et de demander de l'aide aux animaux de la forêt qui ont perdu leur nom et leur identité, pour aller combattre le roi. Donc après, c'est tout un jeu de négociation avec ces animaux qui sont pas toujours d'accord pour donner une partie d'eux-mêmes, mais bon, qui sont sensibles à certaines choses. Hein. Et Zouri lui-même va aussi devoir laisser une partie de lui-même pour enfin arriver aux fenêtres du roi. Je vous ai déjà dit trop de choses, sans doute. Voilà, c'est l'histoire de Chute, le roi pourrait entendre. Et je crois que les chambachadeurs du royaume de Chimère nous ont léché une petite bande...
Une bande son. Explique-nous rapidement ce que
oui, alors en fait, écouter. C'est pour annoncer la venue du roi Chachufi au théâtre Le Fou. Le roi Chachufi a fait un petit discours qui s'adresse aux Lyonnais de la place Châteaudet.
Très bien.
Bonjour à vous, cher peuple de... Je suis Sa Majesté le roi Chachufi, grand sire du royaume de Chimère. J'ai l'immense honneur de vous annoncer ma venue chez vous très prochainement. Ma cour superbe se déplacera en votre belle ville. Soyez nombreux au rendez-vous. Mes chambres spéciaux vous distribueront des brochures sur notre belle contrée, sur notre culture, sur notre belle chambre. Chimère, pays fantastique, où nous chantons à l'unisson dans la paix, l'allégresse et la chute.
Minute météo du royaume de Chimère. Grand soleil sur l'ensemble du royaume. Température de...
L'horoscope.
Madame la libraire, les sourires de rue vous sont entendues. Chez vos livres et veuillez nous suivre, Pochette en état d'arrestation.
Veuillez apprendre quelques notions de notre langage pour que nous nous comprenions. Et si le cœur vous chantit, vous serez les bienvenus chez nous pour vos prochains voyages.
Citoyens, citoyennes, c'est la libraire qui vous parle du fond de sa cellule. Dans quelques heures, on va me couper la langue. Je n'ai pas cédé face au roi. Et si vous m'entendez, sachez que je n'ai qu'une chose, une dernière chose à vous dire. Ça suffit. Révoltez-vous. Exprimez-vous. Au nom de la liberté, au nom de toutes ces années où nous avons...
Voilà, c'était un extrait de la radio de Chimère.
Très bien. Et qui donc va être... Non, je vais pas arriver, moi, si je chuchote, ça va pas le faire. je pourrais pas vivre dans ce pays-là. Donc la pièce va être présentée tout à l'heure à 14h30, encore samedi et dimanche à
11h et 15h30. Samedi et dimanche, deux fois.
Et c'est avec
alors la distribution, c'est donc Ludmila Kofi, dont on a déjà parlé puisqu'elle est metteur en scène sur Révolution et qu'elle joue aussi sur Abolo. Et ensuite Benoît Ferrand, Paul Schwerer et Aurélien Métral qui étaient aussi sur Révolution. Voilà.
Très bien.
Et puis à la création Lumière dans la compagnie de manière générale, c'est Lolita Pario, Lumière et son aussi de tous les enregistrements, voilà, quelques petites créas. Lolita Pario.
Toujours la même personne, vous travaillez toujours en équipe.
Ouais, et pour nous c'est assez précieux de pouvoir collaborer de manière régulière avec les mêmes personnes. Après ça bouge, hein, c'est sûr. Mais
donc c'est elle qui a préparé cette bande son, celle qu'on vient d'entendre.
Alors non, ce montage-ci, elle était pas là cette semaine-là, et en fait c'est une bande son qu'on avait préparée parce qu'on faisait des médiations auprès des enfants à Pierre Bénite pour les préparer à venir voir ce spectacle-là.
D'accord, très bien.
Voilà, avec la Maison du Peuple à Pierre Bénite, on a fait cette bande-son avec un chimérophone, un superbe chimérophone. et donc les gardes du royaume de Chimère présentaient la venue, etc. Et elle était pas là, à l'après-midi où on a enregistré ça, et le montage a été fait par Léonard Dadin. Par contre, elle a créé tous les sons sur le spectacle de Chute l'Europe pour être entendu. Ouais.
On va juste dire que Lolita fait un très beau travail dans ce tout petit théâtre pour pouvoir mettre en lumière 4 spectacles, enfin 3 par jour en ce moment, avec très peu de moyens parce que c'est très petit, qu'il n'y a pas la place de mettre beaucoup de projecteurs. Voilà, donc elle se débrouille très bien et elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui. On va juste rappeler, donc les carottes sont cuites, le diptyque est donc pareil au fou, et ça sera aujourd'hui, demain et après-demain à 18h45. Pour Avolo et à 20h, si vous voulez, vous n'avez pas le temps de voir les deux, pour Simius Sapiens Sapiens.
C'est ça.
Parfait. Voilà. Et ben, merci à vous. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter?
Et ben, qu'on est vraiment ravis d'avoir pu parler à Radio Canu. Quand on a fait cette carte blanche au fou, on a pensé à Radio Canu tout de suite.
Ouais, pas très loin.
Parce que vous êtes pas très loin, mais aussi par rapport aux thématiques des pièces. Donc, ça se réalise et on est vraiment très heureux.
Ben, on espère qu'on va pouvoir continuer cette collaboration pour découvrir les textes et les créations des chapeaux auteurs. Peut-être on espère pouvoir organiser une lecture d'un des textes.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Et puis, oh là là, mais il est l'heure de la chronique de Thomaline. Bonjour Thomas.
Et bonjour Thomas.
Rebonjour.
Oui, rebonjour du coup. Alors, cette semaine, je jubile. Ça fait longtemps que je voulais me faire Folk Richter. Je suis donc allé au théâtre de l'Uchronie, qui a une grosse programmation de jeunes compagnies, voire Nothing Hurts, par le Ken Collectif, dans une mise en scène de Carlos Vieira, avec Véronique Balmont, Marlina Cécile, David Belmont, Wenceslas Lifschultz, qui est dans le thème donc, et Mélie Melzassar. Ces écrivains allemands, avec leur hipster plein de problèmes existentiels, voici donc Nothing Hurts de Folk Richter en 3 minutes.
Allô? Putain. Allô? Merde, t'es là? Je n'ai jamais autant ressenti l'absence de ton corps, putain. C'est comme si... Putain, mais c'est comme si je volais. Mais à l'envers, putain. T'es là? Putain. Pourquoi c'est putain d'aussi difficile de connecter avec quelqu'un dans ce monde? Merde! Mais pourquoi c'est si difficile, putain, de se connecter nos âmes, putain? Je ne suis pas qu'une jeune active riche qui consomme pour le bien de l'Europe, putain. J'ai une âme. J'ai un corps, putain. Même que des fois j'embrasse des copines sur la bouche pour te dire à quel point je suis putain de hype. Parce qu'on est en putain d'Allemagne et que c'est putain de hype. Putain, décroche. Merde. Décroche. J'ai des problèmes. J'ai des putains de problèmes. Blême. Décroche. Ou je me suicide, putain. Décroche. Ou je me putain de tranche les veines avec la coque de mon putain d'iPhone. Ah, c'est toi, putain. Mais non, c'est pas à toi que j'ai dit putain, c'est une figure de style. Une putain de figure de style. Oui, pardon. Allô?
J'ai des putains de problèmes. J'ai planté mon putain de MacBook Pro. Les putains de limites de mon putain de corps se délitent, putain. Et c'est pas une putain de métaphore, hein. Les putains de limites de mes putains de doigts et de mes putains d'yeux et de mes putains d'organes internes se délitent, putain. Comment ça, c'est trop abstrait? Tu veux baiser? Non? Ah, toi aussi t'as des putains de problèmes? Putain, c'est trop abstrait? Putain, trop abstrait pour moi? Je sens que je glisse, putain. Putain, je sens que je glisse dans un putain de délire, putain. Tu sais, putain, avec des putains d'hallucinations et des putains de micros et des putains de vidéos, je sens que c'est la fin, putain. Si, c'est la putain de fin, je te dis. C'est comme ça. Je le sais, putain. Parce que j'ai aussi une putain d'âme, putain. Pourquoi c'est putain d'aussi difficile de connecter avec quelqu'un d'autre dans ce monde, hein?
Parce que tu pètes ton putain d'iPhone chaque fois que t'as des putains de problèmes. Maintenant, tu la fermes, ta putain de gueule.
C'était donc Nothing Hurts de Falk Richter en 3 minutes. Si vous voulez entendre encore la putain de beauté de la langue de Goethe, c'est ce soir à 20h30 au Théâtre de l'Uchronie. Je remercie beaucoup Charlotte ainsi que Luc Vernet pour avoir interprété cette chronique. Putainement vôtre et bon week-end à tous.
Juste avant de vous quitter, j'ai juste deux recommandations à vous faire. Ce soir, demain à 20h30 et dimanche à 17h, il y a un endroit où on ne va pas souvent, malheureusement, c'est à Vaux-en-Velin, au Cirque Imagine. Il se trouve qu'il y a le collectif La Persiane qui va présenter Violetta, qui est un cirque musical, et je vous conseille d'y aller. Et ou sinon, en ce moment, au Théâtre du Pont des Jours, il y a toujours le théâtre permanent de Guénoël Morin, je vais y arriver. Et cette fois-ci, le metteur en scène invité est Philippe Vincent. Il nous présente « Où et quand nous sommes morts » de Red Kami. C'est donc jusqu'au 20 février à 20h. Oui, à 20h. J'y suis allée hier. On nous prévient qu'il s'est déconseillé aux âmes sensibles. C'est vraiment déconseillé aux âmes sensibles. Là, pour le coup, on s'en prend plein la gueule. Voilà, et ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. Encore merci à la compagnie Les Chapeshooters. Merci d'être venu. Et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Il était sur son char.
Amateur.
Propagande. Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Politique.
Construction. Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue, il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.